Lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens 12, et à partir du verset 12. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, soient un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela elle n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait lui? Si tout était oui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ou bien encore la tête aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier, jusqu'ici. Dans ce chapitre, comme presque dans toute l'épître, la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul donne des instructions à l'assemblée de Corinthe qui sont utiles non seulement pour les Corinthiens, mais pour chaque chrétien. Cette épître commence par une introduction, une salutation très remarquable qu'il est bon de retenir et de connaître. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur et le nôtre. Donc cette épître, comme naturellement tout le reste des épîtres et tous les livres du Nouveau Testament, mais ici c'est expressément dit, ne s'adresse pas seulement à une assemblée locale comme Corinthe, mais dans l'inscription, dans la salutation, il est dit pour tous les chrétiens dans tout le monde entier. Et c'est intéressant que justement cette épître a été le but des accusations et des buts des attaques de plusieurs dans la chrétienté parce qu'elle contient des choses qu'on n'aime pas entendre, n'est-ce pas? Mais cette épître, comme tout le reste aussi, parce que c'est la parole de Dieu qui n'est pas limitée à une certaine personne ou un certain groupe de personnes. Dans cette épître, il donne des instructions concernant l'Assemblée. Et l'Assemblée, chers amis, comme on ne peut pas le répéter trop souvent, ce n'est jamais un groupe de frères et sœurs qui se distingue d'autres chrétiens. Si on pensait l'assemblée, comme on dit parfois, il est chrétien, mais il n'est pas dans l'assemblée. C'est tellement faux. Et on, quand même, on le dit, n'est-ce pas? L'assemblée est la totalité de tous les vrais croyants de ce temps présent. C'est l'assemblée de Dieu. L'homme a pensé, je l'ai relevé hier soir, que cela ne suffit pas. On a besoin d'autres désignations catholiques, etc. Je ne veux pas le juger, mais la parole le juge, n'est-ce pas? On n'est pas content, ça ne suffit pas que d'avoir le nom que Dieu a donné. On doit avoir quelque chose que l'homme a créé qui est contre la volonté de Dieu. Parce que passer dénomination, comme on les appelle, n'est-ce pas? L'unité de l'Église est extérieurement détruite. Ça, c'est le problème. L'assemblée consiste toujours de tous les croyants qui sont même maintenant sur la terre. Il sera dans la totalité au ciel, dans la gloire. Aussi ceux qui ne vivent pas, qui ne forment pas partie de l'assemblée existante maintenant, parce qu'ils ne sont pas des membres actifs. Et naturellement, troisièmement, il dit l'assemblée de Dieu à Corinthe. L'assemblée, le rassemblement, comme on le dit aujourd'hui, parce qu'on n'ose pas dire l'assemblée, mais ceux qui sont réunis au nom du Seigneur dans un endroit. Et au début, c'était tous les croyants. Ceux qui sont réunis au nom du Seigneur dans un endroit sont l'assemblée locale. Et l'assemblée locale est l'expression, la seule expression visible de cette assemblée totale qui est à travers le monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'assemblée locale est aussi la représentation de toute l'assemblée. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ce que vous liez sur la terre, réunis en mon nom, ça sera accès sur la terre, pas seulement en votre endroit, ça sera accepté dans le ciel. Et cette vérité montre le vrai caractère de l'assemblée dans sa pratique ici-bas sur la terre. Les Corinthiens avaient besoin d'apprendre, d'être enseignés à ce sujet. Mais la pensée la plus élevée concernant l'assemblée, nous la trouvons dans les Éphésiens. Là où nous trouvons deux choses, on pourrait se poser la question, pourquoi l'assemblée? Pourquoi? Je trouve dans l'Éphésiens deux raisons. Dieu a voulu donner l'assemblée, le Seigneur à l'assemblée, chapitre 1, et aussi donner l'assemblée à son Fils bien-aimé, afin qu'elle soit la complétion, le complément. Oui, à la fin du premier chapitre des Éphésiens, il a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Imaginez, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme, ayant accompli l'œuvre de la réconciliation à la croix, ressuscité, glorifié à la droite de Dieu, lui est celui qui accomplit tout en tous. En lui, toutes les pensées de Dieu ont trouvé et trouveront leur accomplissement. Et c'est celui qui accomplit toutes choses. Donc, est-ce qu'il a besoin de quelque chose ou de quelqu'un? On dirait non. Et quand même, l'assemblée lui est donnée comme plénitude de celui qui lui-même accomplit tout en toutes choses. Ça veut dire le Seigneur qui est au-dessus de tout a quand même besoin, aux yeux de Dieu, d'être complété. En tant nous comme hommes, nous n'oserions jamais le dire. Mais Dieu le dit. Que l'assemblée est la plénitude, c'est la complétion, une addition qui est nécessaire pour compléter. Pourquoi ? Qu'est-ce dont le Seigneur a besoin pour compléter, pour le dire simplement. Je trouve seulement aucune réponse, et c'est Dieu est lumière. Regardez le Seigneur, vous voyez la lumière. Mais Dieu est aussi amour. Et pour démontrer cette relation d'amour, le Seigneur ne suffisait pas, je dis ça en toute révérence, avait besoin de quelque chose ou quelqu'un qu'il pouvait montrer son amour. L'amour de Dieu en Christ s'est démontré dans le fait que le Seigneur a aimé l'assemblée et s'est donné pour elle, Éphésiens 5, afin que lui, comme le chef, la tête, et l'assemblée, comme l'épouse, comme le corps, soit un, démontrant les caractères de Dieu en lumière et en amour. La deuxième chose on trouve dans le chapitre, c'est la première raison pour Dieu lui-même, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Et pour nous aussi, pour notre joie, que nous soyons éternellement liés comme en tant que croyants individuels et en tant qu'assemblée avec celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Mais la deuxième chose, nous trouvons dans le chapitre 3, et c'est aussi très intéressant parce que Dieu a eu un autre but. Au chapitre Éphésiens 3, verset 10, oui, merci. Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ici, nous voyons un autre but de la création, de la formation de l'Assemblée que Dieu avait à cœur de démontrer à toute la création invisible sa grandeur, la grandeur de ses conseils. L'homme moderne veut toujours avoir des réponses à des questions pourquoi. Nous les avons ici pour l'Assemblée. Mais ils sont tellement profonds qu'on ne peut pas les sonder jamais, n'est-ce pas? Pour les Éphésiens, il était possible de déployer, pour ainsi dire, ces choses. Mais pour les Corinthiens, en 1 Corinthiens 2, Paul parle de ce mystère. Le mystère de Dieu la sagesse de Dieu dans un mystère. Il mentionne le mot mystère qui est expliqué ici en Éphésiens 3, mais il ne l'explique pas. Il ne pouvait pas le faire. Les Corinthiens était dans un état d'âme où il n'était pas à même de comprendre les pensées de Dieu dans toute leur profondeur. Mais, par contre, dans cette épître, Paul donne des instructions très précieuses pour le comportement pratique de l'Assemblée dont nous avons aussi besoin aujourd'hui. Nous trouvons la discipline, nous trouvons la scène, la table du Seigneur et aussi le fonctionnement du corps de Christ. Et dans ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, nous voyons que Dieu, par l'apôtre, nous explique le fonctionnement de l'assemblée en total, le corps de Christ, mais tout spécialement localement à Corinthe, parce que l'assemblée de Corinthe était, comme nous l'avons vu, à la fin de ce chapitre 12, le corps de Christ, littéralement, corps de Christ. Verset 27, nous avons vu, vous êtes le corps de Christ. Mais très clairement, les Corinthiens n'étaient pas tout le corps de Christ qui était sur la terre à cette époque-là. Ils étaient seulement l'expression de ça. Et en grec, cela est très clairement exprimé parce que l'article que nous avons ici manque dans le grec. Vous n'êtes pas le corps de Christ. Ça serait pas vrai parce que tous les chrétiens du monde entier appartenaient à cette époque à l'assemblée, au corps de Christ, comme aujourd'hui aussi. Mais ils portaient comme rassemblement local toutes les caractéristiques du corps entier. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes corps de Christ. Vous portez les caractéristiques de ce corps et vous le représentez en tant que rassemblement local. Et ça, c'est ce qu'il explique ici. Et il dit, le corps de Christ est expliqué par notre corps naturel. Notre corps naturel, chacun le connaît plus ou moins, et on sait que quand on est dans une bonne santé, tout fonctionne sans autre, sans parler. Seulement quand on est malade, quand on est blessé, le corps ne fonctionne plus comme il faut. Et c'est exactement cette image que Paul présente, parce que dans la plus grande partie de ce chapitre que nous avons lu, il ne parle pas du corps de Christ, mais de notre corps, pour expliquer que les choses se déroulent dans notre corps d'une manière qui peut être comparée directement avec le corps de Christ, qu'on ne peut pas voir si concrètement que notre corps, n'est-ce pas ? Mais une question encore avant d'y entrer. Ce corps de ce corps humain dans la création et naturellement aussi l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, dont lui est la tête, le chef, lit deux principes que l'homme ne peut jamais lier et n'a jamais réussi à les lier. C'est l'unité d'un côté et le pluralisme de l'autre côté. Nous vivons dans des pays où le pluralisme est déclaré comme le non plus ultra, n'est-ce pas ? Mais on voit que ça aboutira dans la confusion et dans le chaos dont surgira la bête romaine, ici en Europe, là où nous sommes. Le pluralisme n'est pas une chose, c'est l'individualisme, mais il aboutira dans le chaos, dans la confusion. De l'autre côté, on connaît des pays, l'Allemagne les connaissait pendant quelques années, dans la moitié du siècle dernier. Les communismes le connaissaient pendant 70 ans. L'unité, l'individu était mis de côté, tout était uniforme, mais ça, c'était au détriment de l'individu. Le pluralisme développe l'individu, mais c'est au détriment du tout. Mais ici, dans le corps humain, et dans l'Assemblée, Dieu réalise les deux principes qui sont inhérents à la création d'une manière merveilleuse. L'unité, le corps est un seul, dirigé par le chef, la tête, le Seigneur Jésus qui est maintenant dans le ciel en tant qu'homme glorifié. Mais de l'autre côté, une pluralité de membres et de fonctions que même dans notre corps, on peut seulement regarder, considérer avec surprise, n'est-ce pas ? C'est le corps. Un tout consistant de plusieurs membres qui sont tous appelés à fonctionner à la gloire du Seigneur, à la gloire de la tête, le chef du Seigneur au ciel, mais aussi pour la bénédiction du corps total, n'est-ce pas? Dans mon corps, s'il fonctionne, tout travaille ensemble pour effectuer ce que la tête veut, n'est-ce pas? Et qui jamais un membre se mettra contre un autre membre. Il y a des maladies où ça appuie les maladies auto-immunes, n'est-ce pas, etc., où le système lutte contre lui-même, n'est-ce pas? C'est la destruction. Mais dans un corps sauf et sain, tout fonctionne sans friction. Et c'est quelle image du vrai corps de Christ de l'Assemblée. Donc il explique d'abord dans le 12e chapitre, et c'est très important et très pratique pour nous, il dit d'abord au verset 12, « Car de même que le corps, on peut dire de même que notre corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps. » Donc on a ici cette pensée que j'ai mentionnée, n'est-ce pas, pluralisme pour ainsi dire, et unité dans un seul être, organisme. Car aussi, nous avons aussi, ainsi aussi, est le Christ. Donc notre corps, que chacun connaît ou pense connaître, est en vraie vérité, on connaît très peu, n'est-ce pas? Même la médecine, n'est-ce pas? Ils découvrent toujours des nouvelles choses. Mais on sait que tout fonctionne sans friction dans notre corps. Beaucoup de membres, un corps. Et maintenant, il dit aussi est le Christ. Ici, c'est un des passages très rares où le Seigneur Jésus, glorifié dans le ciel, à cause et après l'accomplissement de son œuvre, et en liaison étroite, un avec son assemblée, est appelé le Christ. Le Christ, ici, c'est le Seigneur comme chef dans le ciel et son corps, l'assemblée, avec lui. Une unité, c'est la première leçon, n'est-ce pas? Quand on est en assemblée, est-ce qu'on y pense toujours que nous avons tous, quand il s'agit de régler peut-être des choses difficiles, que nous avons tous, sommes tous des membres d'un seul corps, parce qu'il s'agit de la pratique ici, mais ça s'applique aussi en général. Et le Seigneur est notre chef, notre tête, duquel tout doit découler, n'est-ce pas? Aussi, ainsi le Christ. Et maintenant, cette genèse de ce corps est expliquée dans le verset 13, car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Nous voyons ici l'œuvre du Saint-Esprit pas dans la nouvelle naissance dont on vient de parler hier et aujourd'hui déjà, mais par le don du Saint-Esprit qui vient sur chaque âme, sur chaque chrétien, pour le remplir, pour le diriger, le guider dans sa vie, mais aussi par le fait qu'il a pris son habitation dans chaque chrétien individuel, il habite aussi dans l'assemblée totale. Nous avons tous été abreuvés, nous avons bu, pour ainsi dire, de ce fleuve du Saint-Esprit pour être plein du même esprit qui va à travers toute l'assemblée. C'est l'unité du corps qui est formée par le Saint-Esprit qui habite en nous tous, et qui, naturellement, comme dans le corps, il y a une seule tête, une seule pensée qui pervade tout le corps, ce même esprit ne peut pas travailler, opérer, dans une âme comme ça et dans l'autre âme au contraire. Ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'esprit. Ou un, ou l'autre, ou tous les deux. Mais l'un, l'esprit, ne luttera jamais contre lui-même, n'est-ce pas? Donc, si un frère dit l'esprit me l'a dit, l'autre ne peut pas le dire. Ou doit expliquer pourquoi l'autre est dans la faute, n'est-ce pas? Le seul esprit désire que le corps fonctionne d'une manière parfaite et sans friction. Et c'est à nous de nous soumettre à la direction de cet esprit. Ici, nous trouvons donc la fondation de ce corps par le Saint-Esprit, qui a aussi aboli, dans la deuxième moitié de ce verset 13, toutes les différences qui existent dans le monde, parmi les hommes. Nous avons vu que nous avons dépouillé le vieil homme. Nous avons vu en Colossiens 3 que nous avons revêtu le nouvel homme. Et là, il est dit la même chose. Il n'y a pas juif ni grec, ni scythe ni barbare, tous un en Christ. Un seul homme. Nous avons tous la même nature et la même position devant Dieu, c'est-à-dire dans l'assemblée de Dieu, les différences sociales, les différences de race, de peuple, ne jouent aucun rôle et ne peuvent pas jouer aucun rôle, n'est-ce pas? Et combien de fois cela n'est pas le cas? Que les différences sociales continuent à exister. Mais c'est contre la parole, parce que les membres, il n'y a pas de membres de plus grande honneur, on le verra, mais en Christ, nous sommes tous un, n'est-ce pas? Dans le monde, ces différences existent. Et il n'y a pas de plus grande différence entre un libre, un homme libre et un esclave, n'est-ce pas? Un esclave était une chose. Il n'avait pas une volonté propre de décider ce qu'il voulait faire. Et dans l'assemblée de Dieu, ils sont tous sur le même niveau. La valeur d'une âme pour Dieu ne connaît pas de différence. Ça, c'est la perfection divine, son amour qui nous a tous aimés, égal de quelle provenance. Et maintenant, après avoir expliqué l'existence et la genèse du corps de Christ par le Saint-Esprit, naturellement, la foi est la base. Maintenant, il recommence dans le verset 14 jusqu'à la fin du verset 26 de parler de notre corps pour expliquer le fonctionnement du corps de Christ. Parce que, et c'est très facile à comprendre, mais aussi très beau que Dieu prenne tellement de soin pour nous expliquer les choses spirituelles à base des choses que nous connaissons par notre propre existence, non seulement notre propre expérience, mais presque par notre existence, n'est-ce pas? Il dit, il parle donc ici de notre corps que nous pouvons connaître pour expliquer des choses qui sont en relation avec le corps de Christ. Et on peut faire cette transmission, cette équation des membres de notre corps avec le fonctionnement du corps de Christ directement. Mais il commence à dire dans le verset 14, car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Ça, c'est une vérité tellement simple qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais il dit ça, pourquoi? Parce que, évidemment, il s'agit ici, dans ce chapitre aussi, de l'utilisation des dons, que peut-être, comme j'ai parfois l'impression aujourd'hui aussi, seulement un frère qui peut présenter la parole est un vrai frère. Je dis ça un peu brut, d'une manière brute, n'est-ce pas? Mais si tous les frères ne faisaient que ça, où serait la diversité des membres, n'est-ce pas? Et la doctrine, elle est importante, mais ce n'est pas tout. Un rassemblement avec beaucoup de docteurs dont il avertit le frère du Seigneur, Jacques, n'est-ce pas ? Ne soyez pas beaucoup de docteurs, n'est-ce pas ? Plusieurs docteurs. Une assemblée avec seulement des docteurs peut développer à devenir une assemblée très froide. Mais une assemblée avec le service des pasteurs, n'est-ce pas, qui se soucient, qui prennent soin des brebis, c'est une assemblée qui est en bon état. Mais je mentionne ça parce que ici il dit, nous ne pouvons pas, dans notre corps, il est impossible que tous les membres aient la même fonction. Il n'y aurait plus de corps. Et il en est de même dans notre corps, dans le corps de Christ, si tous les membres auraient seulement une fonction, n'est-ce pas ? Pas de corps. Car aussi, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Et maintenant, il parle de deux dangers dans le corps qui sont irréels dans notre corps. Normalement, n'arrive jamais ce qui est dit ici. C'est pourquoi il dit aussi dans négatif. Il dit dans le verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps ? Nous avons ici une expression. Je dirais clairement d'une sorte de complexe d'infériorité. On se ressent être inférieur à un autre. Le pied, mais l'apôtre dit, dans votre corps, il est impossible que le pied dise, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas partie, je ne fais pas partie du corps. C'est impossible. Mais la leçon, l'instruction que nous tirons de ça est que dans le corps de Christ, si quelqu'un, un frère ou un sœur, disait « Je ne suis pas comme tel et tel, j'aimerais bien l'être, mais parce que je ne suis pas, je me ne soucie de rien, je me retire pour ainsi dire, je fais rien, je ne suis pas du corps. » Ça, c'est l'application. Et c'est possible. C'est tout à fait faux. Et quand même, ne connaît-on pas ce danger de penser comme ça, n'est-ce pas ? J'aimerais être comme tel et tel, mais je ne suis pas. Et c'est pourquoi je ne fais rien. Mais dans ce cas, tu négliges les choses que le Seigneur t'a données à toi. Dans le corps, une telle attitude, dans mon corps, c'est impossible. Ici, si cela était le cas, c'était la catastrophe au bon corps, n'est-ce pas ? Mais il en est de même pour le corps de Christ. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps ? Il s'agit ici toujours des membres ou des parties du corps qui pensent qu'une autre partie est plus importante et plus belle. Mais la réponse de Dieu est, au verset 17, « Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ?» Donc on voit la difficulté et la contradiction qui découle d'une telle pensée, de penser « j'aimerais être comme tel et tel », mais je ne peux pas l'être naturellement, et c'est pourquoi je ne fais plus rien. Comme si je n'étais pas un membre du corps. C'est au détriment de tout le corps, et d'abord de l'assemblée locale, dont ce corps est aussi l'image. Mais c'est comme très beau de voir dans le verset 18, une chose qu'on néglige parfois. Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a voulu. Bien entendu, il parle toujours de notre corps, où il est impossible qu'un membre dise « je veux avoir une autre fonction ». Mais si nous pensons cela dans le cadre de l'Assemblée, nous avons la réponse ici. Dieu a placé les membres et l'application, n'est-ce pas, est à nous. Maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Là où je suis, chacun peut le dire, avec les facultés, peut-être les dons que j'ai, c'est la place que Dieu m'a donnée. Et ce n'est pas à moi de décider autre chose. Quelle paix cela nous donne, n'est-ce pas, d'accepter que le Seigneur m'a placé avec les facultés, avec les possibilités que j'ai, là où je suis. Et je n'ai pas besoin de rechercher et de regarder autour de moi, mais de faire cela que le Seigneur m'a donné à faire, n'est-ce pas? Ma pousse n'aurait jamais l'idée d'être quelque chose d'autre. On comprend ça, n'est-ce pas? Elle n'a pas le choix, et nous non plus, parce que c'est Dieu. Pas nous-mêmes, pas un frère, pas des frères, ou pas notre choix, n'est-ce pas? Ça nous montre aussi le sérieux de choisir la place, l'endroit où on habite, n'est-ce pas? Je mentionne ça seulement à côté, parce que c'est aussi aujourd'hui un peu une tendance de chercher un rassemblement qu'on trouve plaisir, trouve bon, n'est-ce pas? Si le travail, c'est une chose, mais on ne cherche pas les rassemblements, n'est-ce pas? On cherche la place, on reste là où le Seigneur nous a placés. Ça nous donne de la paix. L'autre chose, nous mettre souvent en inquiétude. Et non seulement cela, maintenant Dieu a placé les membres comme il l'a voulu, et il dit la conséquence, « Or si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?» Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. Encore la répétition de cette apparente contradiction entre le pluralisme des membres et l'unité du corps. Ça fonctionne seulement dans la pleine dépendance de Dieu par son Saint-Esprit. Autrement, ça ne fonctionne pas. L'organisation humaine ne peut jamais remplacer cet ordre divin et cet ordre de l'esprit, qui est divinement parfait. Deuxièmement, nous avons à partir du verset 21 le contraire, pas un complexe d'infériorité, mais un complexe de supériorité, de surélévation, je suis mieux que les autres. C'est le danger contraire. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est exactement le contraire de ce que nous venons de voir justement dans les versets, à partir du verset 15. Mais c'est également dangereux, n'est-ce pas? Peut-être on dit, mais ce danger, je n'ai jamais connu, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas se comparer avec les frères et sœurs les plus actifs. Mais est-ce qu'on pense, on estime toujours les autres plus haut que nous-mêmes? C'est ça ici, n'est-ce pas? Quel horrible attitude de dire qu'un frère et une sœur ou une sœur disent « Je n'ai pas besoin de tel et tel frère ou sœur. » Et quand même, mais peut-être on ne le dit pas, on ne le pense pas, mais on le ressent. Mais ça, c'est aussi au détriment du corps. L'œil ne peut pas dire à un autre membre « Je n'ai pas à la main, je n'ai pas besoin de toi. » Ou bien encore la tête aux pieds. Et ça nous montre qu'il ne s'agit pas du corps de Christ dont il parle ici. Parce que dans le corps du Christ, la tête est le Seigneur. Et de lui, c'est impossible de penser, même de décrire cela. Il parle de notre corps que nous comprenons très bien pour nous expliquer le corps spirituel de Christ qui est un peu pas concrète, n'est-ce pas? Mais les exemples concrets nous expliquent les choses spirituelles. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais et maintenant, il explique la différence qui existe entre des membres du corps, de notre corps, plus élevés et moins respectés. Et on peut appliquer ça immédiatement aussi au corps de Christ. Il y a des frères, des sœurs qui sont très respectés à cause de leur travail. Mais Dieu dit, ce n'est pas une chose qui fait moins des autres membres, mais par contre, il explique maintenant qu'il y a des dons qui sont extraordinaires, qui n'ont pas besoin d'être soutenus, qui sont visibles. Mais il y a des fonctions dans notre corps qui sont beaucoup plus importantes que la fonction de notre bouche qui parle, n'est-ce pas? Je peux même vivre sans ma langue, n'est-ce pas? Difficile. Je peux vivre sans un bras, sans deux bras, sans les quatre extrémités. Il y a des cas. Mais tu ne peux pas vivre sans cœur, sans poumons, sans reins. C'est impossible. Sans les intestins. Donc ce sont des membres, des parties de notre corps qui sont moins respectés, qui n'ont pas une apparition impressionnante. Et mais ils sont importants, ces membres, très importants, indispensables pour ainsi dire. Et Dieu dit, comme dans notre corps, ces parties sont, pour la plus grande partie, invisibles, protégées de toutes sortes de protections, n'est-ce pas, la poitrine, le thorax et le crâne, n'est-ce pas, qui protègent notre cerveau. Ils sont invisibles et quand même beaucoup plus importants que les extrémités. Et Dieu dit, il est comme ça dans le corps, dans votre corps, et moi je prends soin que ça sera aussi comme ça dans le corps de Christ, dans l'Assemblée. Dieu prend soin de ceux qui pensent, je ne suis pas tellement glorieux, je ne suis pas tellement visible et je ne suis rien. Peut-être le Seigneur veut t'utiliser pour un travail que personne ne réalise, que personne ne s'aperçoit de ton travail et quand même il est important. La prière dont on vient de parler, n'est-ce pas? Combien Paul mentionne Épaphras, par exemple, n'est-ce pas, qui lutte dans les prières pour vous, n'est-ce pas? Et Paul a apprécié cela très fortement parce qu'il savait la prière est une chose très importante. Des travaux pour le local, par exemple, n'est-ce pas? Ce sont, pour ainsi dire, des choses négligeables. Mais imaginez que votre local ici ne serait jamais nettoyer, n'est-ce pas, ou mise en ordre. Ce sont des tâches, des fonctions qui ne sont pas tellement honorables, mais nécessaires. Et si l'homme ne donne pas de l'honneur à ces personnes, Dieu le fait. C'est la doctrine, c'est le sens de ces versets, n'est-ce pas? Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, afin que cette jalousie ou ce mécontentement ou cette méprise ne prenne pas place et ne trouve pas une place pour se développer, n'est-ce pas? Dieu a composé le corps. Quelle consolation, chers frères, pour notre rassemblement local, de nous représenter toujours de nouveau que Dieu nous a mis ensemble. Il a composé le corps selon sa volonté parfaite. Et de nous soumettre à cette volonté et de prendre nos tâches de sa main et de faire ce qui, lui, notre Dieu, par son esprit et sa parole, nous disent que nous fassions, n'est-ce pas? Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. Combien de les divisions du corps commençaient immédiatement presque après cet épître, parce que les traces des divisions étaient déjà, les schismes étaient déjà visibles dans l'assemblée de Corinthe. Parti, esprit de parti, n'est-ce pas? Je suis de Paul, je suis de Céphas, je suis d'Apollos. Qui sommes-nous, il dit. Nous sommes des serviteurs. La division était là. La division parce qu'on n'était pas content avec la place qu'on avait lui-même et la place que Dieu avait donnée aux autres. On voulait prendre la place, on a la division. Parce qu'on n'est pas content avec la place que le Seigneur nous donnait. Ça, c'est très important parce que toutes les divisions ont leur origine ici, le mécontentement avec la place que le Seigneur nous donne. Tous ceux qui ont cherché la division ont toujours voulu avoir une place plus honorée. On pourrait le prouver par montrant les vies des personnes, de plusieurs de ces personnes, n'est-ce pas? Se mettre en avant cause des divisions, parce que le Seigneur dit, moi je suis le chef, moi je suis la tête. Et si je donne de l'honneur à quelqu'un, il faut le faire plus humilié. Mais quand on n'a pas appris cela, de s'humilier, on se met en avant, la division est là. Parce qu'il y a, Paul dit, il est nécessaire que les divisions soient là, parce que ceux qui se mettent en avant, qui ne sont pas contents avec la place que le Seigneur leur a donnée, qui causent les divisions, doivent être mis à la lumière afin que les fidèles soient révélés, manifestés, n'est-ce pas? Chapitre 11 le dit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la volonté d'avoir des divisions. Mais si un tel esprit se démontre, Dieu dit, attendez, ça aboutira dans une division. C'est triste de le dire. Mais si quelqu'un ne veut pas accepter l'instruction de la parole, et il continue, il est nécessaire, parce qu'on ne peut pas suivre, il est nécessaire que ceux qui désirent être fidèles restent afin que le résultat soit... C'est triste, n'est-ce pas? Très triste. Mais Dieu ne veut pas les divisions. Donc chaque division est causée par la chair qui se veut mettre en avant. Je ne parle pas, mais de l'autre côté, c'est la même chose. Je ne parle pas des séparations du mal, parce que si on se sépare du mal, c'est un mal qui est excusé et exculpé par quelques-uns qui se mettent en avant. Et de ça, on doit se séparer. Mais ce n'est pas la pensée que nous trouvons ici. C'est justement l'unité du corps qui, dans son fonctionnement, est basée sur le fait que chacun prend la place que le Seigneur lui a donnée. Et si, verset 25, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres, un soin égal. Qu'on ne préfère pas un frère, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des amis, n'est-ce pas? Mais préférer quelqu'un ne veut pas dire que j'ai un ami. Mais préférer veut dire que par des raisons charnelles, je donne une place ou une fonction à quelqu'un qui n'en est pas capable, n'est-ce pas? Et ici, il est dit que nous avons les mêmes soins, les soins égaux pour l'un pour l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous ne préférons pas quelqu'un à cause de son caractère, mais que nous donnons ce qui est dû à chacun dans l'assemblée. La justice, c'est la justice dans nos activités. Et nous voyons combien pratiques ces passages sont pour la vie pratique de notre rassemblement. Et aussi quand nous continuons dans le verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Il n'est pas dit si un membre souffre que tous les autres membres souffrent avec lui, comme miséricorde. Mais il dit la conséquence de la souffrance d'un membre est la souffrance de plusieurs, parce que nous sommes un. Et la souffrance de plusieurs membres dans le corps entier de Christ, pas seulement ceux qui sont réunis avec nous, se montre dans la faiblesse générale du témoignage dans la chrétienté, que tout est en faiblesse, parce que trop de membres souffrent de toutes sortes de causes, n'est-ce pas, et tout le corps en est tiré dans les mêmes traces. Et aussi, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça c'est là dans notre corps. Si je me suis coupé dans un doigt, il se peut que je ne peux utiliser tout le bras, n'est-ce pas? Parce que chaque mouvement me fait des douleurs. Donc des autres membres souffrent de la souffrance d'un membre. Et maintenant, au verset 27, il ouvre la porte et dit, vous êtes le corps de Christ. Maintenant, il fait l'application finale en disant, vous êtes le corps de Christ. Jusqu'ici, j'ai parlé d'une manière que vous pouvez comprendre très bien parce que vous avez toutes ces expériences dans votre corps. Mais maintenant, je dis, appliquez tout ça au corps de Christ, parce que c'est de ça que je parle. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée. Dans le verset 18, nous avons vu, maintenant Dieu a placé les membres, chacun dans le corps humain. Verset 24, mais Dieu a composé le corps humain. Mais ici, il dit, Dieu a placé les uns dans l'assemblée. C'est l'instruction de ce chapitre, chers amis, que Dieu forme son assemblée, le grand corps de Christ qui sera éternellement à sa gloire et à son honneur et aussi à une représentation pour toute la création invisible. Mais nous, ici-bas sur la terre, nous réalisons cette pensée de l'assemblée dans le rassemblement local. Et ces instructions nous montrent que, comme dans notre corps, seulement le fonctionnement normal est si chaque membre prend sa place que normalement le fait. S'il prend la place que Dieu lui a donnée dans le corps humain. Il en est de même dans le corps de Christ, dans l'assemblée. Considérons nos chemins, nos sentiers, comme Agé le dit plusieurs fois. Considérons nos chemins et regardons si nous avons des idées fausses à ce sujet. Que nous pensons de rassemblement local d'une sorte d'église, d'une sorte d'organisation que nous ne sommes pas. Nous sommes membres du corps de Christ. C'est lui seul qui a l'autorité, Dieu seul, le Saint-Esprit seul, qui a l'autorité de nous placer là où nous sommes. Et bien heureux sommes-nous si nous prenons cette place que Dieu nous a donnée à son honneur et à la bénédiction de nos frères et sœurs et au monde, et aussi à notre propre bénédiction.